Bonjour Adovi Michel Goakwe.
Bonjour.
Dans la marche vers les indépendances, pourquoi dit-on que le Togo a été précurseur?
Au Togo, le choix de l'indépendance était fait dès le 27 avril 1958. Cette élection particulière, le 27 avril, élection législative anticipée, faisait office de choix pour l'option pour l'indépendance ou pour participer à l'Union française qui a été mise en place déjà en 46. Tout était préparé par l'administration coloniale pour gagner ces élections, mais il faut dire que les syndicats ont joué un rôle important. Les leaders syndicaux se sont mis en grève générale, demandant une révision de la liste électorale, ce qui fut obtenu et donc la liste fut élargie. Il y a eu une massive participation donc des Togolais contre toute attente. Les nationalistes ont largement battu. On a fait appel au leader donc du parti nationaliste, Silvano Sulimpio, pour former un gouvernement. La décision des Togolais à obtenir l'indépendance, à diriger leur pays par eux-mêmes, était prise et il restait les négociations à faire au niveau du Conseil de tutelle de l'ONU. Et les négociations ont commencé également avec la France pour que le Togo proclame son indépendance.
Pourquoi est-ce qu'Olympio n'a pas voulu que l'indépendance soit proclamée dès 1958?
Les difficultés de gestion étaient claires. Économiste formé, il sait que prendre l'indépendance est une option difficile. Sur le plan budgétaire, depuis un certain nombre d'années, déjà en 51, le budget de la plupart de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient donc sous, disons, autonomie financière, dépendait largement des subventions de la France. Subventions pour les équipements, notamment à travers le Fonds d'investissement et de développement économique et social, FIDES, et le Togo et tous les pays étaient déficitaires. Prendre l'indépendance est une option difficile. Donc, il a voulu que cette indépendance soit préparée. Et d'ailleurs, il a estimé qu'il faut donc des infrastructures pour accueillir les eaux de marque qui allaient arriver. C'est en ce moment-là, entre le 58 et 60, que le premier grand hôtel de classe internationale, l'hôtel Le Bénéfice, fut construit pour accueillir les étrangers qui vont venir.
Donc Sylvanus Olympio a l'intuition qu'il faut aller plus progressivement vers l'indépendance.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui explique son conflit avec les jeunes de l'époque, c'est-à-dire la juventud. Eux, notamment Anani Santos et tous les confrères voulaient l'indépendance proclamée en tout éclat, etc. Il leur a demandé, non, écoutez, prenons le temps pour faire la fête, pour faire la proclamation, pour ne pas faire les choses au hasard. Les jeunes voulaient immédiatement donc une proclamation dans la violence, ce qui a été fait d'ailleurs par la Guinée.
Cette lutte pour l'indépendance voit s'opposer deux bords politiques, ceux qu'on appelle les progressistes, sous la bannière notamment du PTP, derrière la figure de Nicolas Grunitzky, et puis les nationalistes, avec le CUT et la Juventud, derrière la figure de Sylvanus Olympio. Qu'est-ce qui les différencie au fond?
Au fond, qu'est-ce qui les différencie? Ceux que nous appelons nationalistes voulaient l'indépendance immédiate, disaient-ils. Mais ceux qui étaient pro-administration, pour la plupart d'ailleurs, ils travaillaient dans l'administration. Ils voulaient également l'indépendance, sans doute, mais conscients de nos incapacités, de nos faiblesses au plan économique, ont préféré donc une indépendance négociée. Ils sont en quelque sorte des réformistes. Mais à voir de près, ce sont donc des gens qui également voulaient tout à fait l'indépendance. Qui ne veut pas la liberté? Tous voulaient la liberté, mais ils avaient plus facilité donc à travailler avec l'administration que d'être autonome. D'ailleurs, la plupart des leaders nationalistes étaient plutôt dans le privé. Ils travaillaient pas dans le public. Pour la plupart, donc, ils pouvaient exprimer librement leur position par rapport à l'administration dont elle dépendait très peu.
Est-ce que Nicolas Grunitzky a été l'homme de la France, comme le disent certains?
Effectivement, il est l'homme de la France. L'homme de la France au sens où c'était un ingénieur en génie civil qui a travaillé pour l'administration, mais qui a été porté à bout le bras un peu par la France. D'ailleurs, comme il avait très peu de prestance au niveau même de la partie sud du pays, il a fallu créer un pendant au nord. C'est ce qui a amené l'administration, qui a amené rondement les chefs du nord a formé un parti politique régionaliste qu'on a appelé l'UCPN, qui était en coalition avec le PTP, le Parti Togolais des Progrès. Donc, quelque part, l'administration a toujours cherché la possibilité de diviser pour régner. Et cette division, c'est ça qui, aujourd'hui, pèse encore sur le Togo, le Nord et le Sud.
On comprend bien en entendant vos explications à Devi-Michel Gouakoué que le Togo a un parcours particulier au sein de l'espace francophone dans cette marche vers les indépendances. Qu'est-ce qui explique cette particularité?
Si nous prenons toute la côte, c'était une zone où la traite des nègres a amené une élite locale à se former. Il y a eu une instruction précoce dans cette zone. C'est ce pourquoi on parle donc du quartier latin de l'Afrique en parlant du sud Dahomey et sud Togo. À l'époque de la colonisation allemande, les Togolais écrivaient déjà des articles dans différentes revues. Notamment, ils allaient publier dans le Gold Coast Leader au Ghana. Donc, une prise de conscience très précoce due à cette histoire ancienne du golfe du Bénin. La liberté que les systèmes anglais a donnée aux populations donc de la côte d'Accra aussi a influencé beaucoup parce que c'était de bon ton, une fois qu'on finit des études primaires au Togo, d'aller en Gold Coast faire des études en zone anglaise. Donc, ce n'était pas rare déjà au début du XXe siècle de trouver des Togolais bilingues qui parlent certes leur langue, mais qui parlent également le français, l'anglais ou bien l'allemand et l'anglais. Donc, tout cela a participé à une certaine évolution sociale et qui permettait au Sud-Togo d'avoir une élite au fait des questions coloniales, au fait de leurs intérêts.
Et dans ces milieux, par ailleurs, on voit très vite apparaître un certain nombre d'idées nationalistes.
Oui, tout à fait. Le nationalisme togolais a débuté très tôt. Déjà en janvier 1933, quand à l'issue de la grande crise économique mondiale, la fiscalité a été augmentée. Un groupe de jeunes leaders, avec l'appui des femmes, a mené un mouvement, une forme d'émeute contre la fiscalité. Et déjà, c'était une pression pré-nationaliste qui se met en place. Et c'est progressivement que, en 38, une association créée par la colonisation française, notamment par Montagnier, pour faire pièce aux revendications de retour des Allemands, va se transformer en parti politique. Donc, c'était le premier parti politique, c'est le CUT, le Comité de l'Unité Togolaise, qui avait d'ailleurs au début comme mot d'ordre la réunification du pays EV. Par conséquent, ces Togolais, dès le début, étaient assez pointus dans leurs revendications et ils vont l'exprimer notamment en mai 45, quand le gouverneur de l'époque, le commissaire Noutari, a organisé une réunion avec l'élite de la population togolaise pour savoir quelle est la position donc des Togolais par rapport à l'après-guerre. Alors, l'élite togolaise, avec à la tête Sylvano Sounimpio, ont dit ils ne veulent pas être français, mais ils veulent être des Togolais à part entière, pour pouvoir gérer leur nation, parce qu'ils n'ont jamais été colonies, ils étaient juste un territoire sous tutelle et que la France avait obligation donc de les conduire à l'indépendance. Donc c'était déjà une manifestation importante du nationalisme qui voulait se libérer du joug français.
Est-ce que l'existence des procédures de tutelle qui étaient encadrées par l'ONU a joué un rôle dans cette marche vers l'indépendance?
Rôle très important parce que les Togolais en avaient conscience et ils ont à plusieurs reprises envoyé des représentants du Togo au conseil des tutelles pour défendre la cause. Ça a commencé par la cause EV en 46 et ensuite donc la cause de l'indépendance. Donc les émissaires ont été envoyés par le CUT dont les femmes ont été donc les porte-flambeaux qui ont payé le transport de Sylvano Sounimpio. Les Juventus également ont envoyé donc son représentant et l'État et administration donc coloniale également avec son représentant à travers Uniski et tous les autres. Mais le nationalisme a été plus prégnant et leurs revendications étaient très importantes. Dans les rapports, on attendait qu'un délégué africain va venir, etc. On pensait avoir quelqu'un en tenue africaine naturelle, mais c'est un gentleman qui arrive avec cravate, tenue correcte, etc. Et bien, les gens s'étonnent de l'expression anglaise qu'il avait et qu'on se dit, mais tiens, donc ce territoire, effectivement, est un territoire évolué qui doit pouvoir aller à l'indépendance. C'est comme ça que très tôt, le Togo s'est fait remarquer au niveau du conseil de tutelle.
Vous diriez à Devi-Michel Gouakoué que le regard de l'ONU a exercé une forme de pression sur les autorités françaises à l'époque?
Tout à fait. Pour l'ONU et notamment le Conseil de tutelle, l'objectif c'est de conduire les États à l'indépendance. Donc cela explique que forcément la France ne pouvait pas faire au Togo ce qu'on fait dans les autres colonies. Et d'ailleurs, le rapport qui est exigé de la France chaque année sur l'État de tutelle impose la limitation donc de certaines actions coloniales au Togo. Donc, il y a ces rapports qui se trouvent dans les archives. Chaque année, la France était obligée de produire un rapport sur l'état de tutelle dans les territoires. Donc, forcément, c'est une autre forme de pression qui explique que, progressivement, on a cherché à libérer le Togo et les autres colonies.
Alors, le Cameroun était lui aussi sous tutelle, mais au Cameroun, les autorités françaises ont réussi à conserver le contrôle du processus et à placer l'un de leurs alliés à la tête du nouvel État indépendant. Au Togo, le processus échappe manifestement aux autorités françaises en 1958. Qu'est-ce qui explique cette différence ?
Au Cameroun, les intérêts étaient plus importants, beaucoup de plantations gérées par des Français, alors qu'au Togo, il y avait peu de plantations, il y avait peu de Français installés localement. C'est ce qui explique que la France a tenu davantage au Cameroun en plaçant à la tête Aïdjo après que l'UPC et Oumniombé et ses collègues ont été arrêtés, tués pour les uns et emprisonnés pour d'autres.
Quel a été le rôle des femmes dans ce processus d'indépendance togolaise ?
Sur tout le long du golfe du Bénin, les femmes ont été très dynamiques dans le commerce et les présentes, elles avaient des moyens, une certaine autonomie qui leur permettait d'avoir également une forme d'expression dans la vie politique. Donc, leur rôle a été très important dans la lutte pour l'indépendance. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'elles ont cotisé pour financer le voyage de Silvanus Olympio au Conseil de tutelle. Mais leur dynamisme, c'est surtout dans la propagande. C'était elles qui étaient donc les instruments de propagande sur les marchés en élan leur clientèle. Elles ont l'habitude donc de transmettre des messages politiques. Et on peut vous vendre donc des cacahuètes dans un papier, mais qui n'est autre qu'un tract. Donc, on peut distribuer des tracts sous différentes formes. Donc, elles étaient les messagères sur les marchés. Vous savez, Lomé, c'est la capitale, mais il y a beaucoup de marchés régionaux dans toute la partie sud qui va marché de Vaughan, marché de Tabligo, à Nero, Sokodé et à Tapame. Donc, partout où elles y vont avec leur slogan qui permettait donc de sensibiliser les gens. Et l'administration coloniale n'y comprenait rien. Il faut comprendre la langue locale pour savoir de quoi on parle. Même si on comprend la langue locale, il y a quand même un langage codé qu'elles avaient qui leur permettait de transmettre les messages. Et quand il y a réunion, alors il suffit donc de savoir dire de quoi il est question en parlant de leurs produits, en vantant leurs produits, et les gens savent qu'il y a réunion.
En 1963, Silvanus Olympio est assassiné par des militaires. Quelles sont les questions qui entourent cet assassinat ?
Quand on dit par les militaires, combien il était les militaires togolais à l'époque ? Est-ce qu'il y avait une armée localement ? Où se trouve l'armurerie et avec quelle arme ça a été fait ? Je crois que sur cette question, les archives ne sont pas encore tout à fait disponibles pour qu'on éclaircisse, mais il y a beaucoup de points d'ombre sur la question. En principe, le ministre des Finances quittait le Togo pour aller le 14 négocier la position du Togo dans la zone franc et le 14 janvier. Mais malheureusement, le coup d'État est arrivé le 13 et il n'a pas pu partir. Est-ce qu'il y a déjà une certaine connivence du fait que le Togo voulait sortir de la zone franc et avoir un système monétaire plus autonome par rapport à la France? Là, la question se pose. Comment les choses se sont passées? Les gens sont arrivés dans la nuit, ils ne l'ont pas trouvé. Il est parti se réfugier dans un bus en panne garé dans l'ambassade des États-Unis qui était mitoyen de sa résidence. Et c'est là que l'information a été à l'ambassadeur des États-Unis et passée à l'ambassadeur de France au Togo. Et finalement, c'est par la suite que le coup d'État a eu lieu. Selon donc les articles de presse de l'époque, c'est un certain Georges Métrier qui était le chef de la gendarmerie qui a joué un rôle important. Parce que les services secrets de la France doivent avoir quelque chose à nous dire sur ces questions-là, mais les archives ne sont pas encore ouvertes. Peut-être que les Togolais, il leur revient également de porter plainte pour qu'on éclaircisse cette partie de l'histoire du Togo qui est importante et qui mine encore la vie politique aujourd'hui.
Merci à Dovi Michel Goakoué.
Je vous en prie.